Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Pierrot et la Mégie.
Voici les titres de votre journal, mesdames, messieurs. Plus de 600 personnes ont été mutilées pendant les différentes attaques des groupes armés dans la province de l'Ituri. C'est le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui publie ces chiffres tout en demandant au gouvernement de mettre fin à la guerre. En RTC, plus de 2000 enfants sont séparés en 2020 des groupes armés par les acteurs de protection d'enfants en situation de conflits armés. Les provinces de l'Ituri, du Nord et Sud Kivu sont plus concernées, indique la section protection de l'enfant de la MONUSCO dans un rapport. Nous recevrons avant la fin de ce journal Marc Manianga, directeur d'exploitation de la SNCC. Il revient sur la situation des commerçants de Mbujimayi qui se plaignent notamment de voir que leurs marchandises déposées il y a quelques temps à la SNCC ne sont toujours pas arrivées à Mweneditu. Bienvenue à toutes et à tous. Ce journal est mis en onde par Polydor Basunga. En Ituri, plus de 600 personnes ont été mutilées pendant les différentes attaques des groupes armés dans cette province. Ces chiffres ont été publiés au cours d'une conférence débat organisée par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. C'était en marge de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap. Les associations pour la protection et la promotion des droits de ces personnes demandent au gouvernement de mettre fin à la guerre qui accentue les degrés de vulnérabilité de leurs membres. Isaac Remoyope.
Le nombre de personnes vivant avec handicap est estimé à plus de 10 000 sur toute l'étendue de la province et qui vivent dans des conditions difficiles. Parmi elles, il y a au moins 600 dont les membres ont été amputés par les miliciens lors de leur incursion dans les villages notamment en territoire de Djougou et Irumu. Selon l'ONG, les rassemblements des personnes handicapées, leur nombre ne fait qu'accroître à cause de la persistance de l'insécurité. Pour l'ONG, les rébâtisseurs, la priorité pour ces personnes, c'est la restauration de la paix pour leur permettre de vaquer à certaines occupations. Son coordonnateur, James Biensi.
Parlant à nos frères qui sont armés dans la brousse de n'importe quel mouvement, de donner la chance à la paix. Et aussi demander au gouvernement s'il faut imposer la paix, qu'il l'impose. Mais s'il faut négocier la paix, que le gouvernement négocie la paix. Parce que le moment est venu pour que nous puissions vivre en paix et surtout les personnes mutilées et les personnes vivant avec handicap qu'ils expérimentent aussi un peu la paix.
Ces personnes vivant avec handicap ont également besoin de matériel pour faciliter la mobilité en vue de se prendre en charge. Signalons que l'ONG Les Rébâtisseurs a fourni il y a plus d'une année plus de 2000 tricycles et des chaises roulantes aux personnes vivant avec handicap à Ituri. Cependant, les besoins restent énormes. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, plus de 1500 personnes victimes des massacres des Beni, dont le veuve et les orphelins ont bénéficié de l'assistance humanitaire, dont des biens collectés à Boutembo par la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance d'Iefegou en sigle. C'est la coordonnatrice de cette structure des femmes qui l'a annoncé ce jeudi à Boutembo à l'issue d'une tournée effectuée dans la région des Beni, notamment dans les secteurs de Rwenzori. Rose Tuombane explique au micro de Grâce Hamzati.
Pour l'argent, nous avons payé comme promis les frais scolaires à 50 élèves orphelins des massacres. C'est-à-dire les frais scolaires varient entre 80 et 95 dollars américains l'année. Et pour les biens, nous avons servi sur l'axe Maviv Eringeti 855 personnes, veuves et orphelins. Et sur l'axe Mwenda Mutonga, nous y avons servi 460 personnes. Lorsque nous avons été sur l'axe Mutonga, la population de là nous a informé que d'autres rescapés des massacres vivaient en Beni, notamment à l'hôpital, mais aussi dans des écoles. C'est ainsi que nous sommes rendus avec d'autres biens jusqu'à la ville de Beni, où nous avons encore distribué à 390 victimes des massacres. Nous sommes rendus à l'hôpital général d'inférence de Beni. Nous avons assisté 10 femmes enceintes, victimes aussi des massacres, et 6 blessés hommes. Et donc, en tout, l'assistance a atteint 1721 victimes des massacres.
Notons que la Difegou avait collecté plus de 4000 dollars américains et plusieurs autres biens dans la ville de Boutembo en faveur des victimes des massacres des Beni. Une dispute des terres agricoles entre les habitants de deux villages du territoire des Chikapa a dégénéré mardi dernier. Selon le ministre de l'Intérieur du Kasaï, les habitants de Mutenda ont incendié des habitants dans les villages voisins de Kazamba, considérant qu'elles sont construites sur un terrain terrain qui appartient à leur agglomération. À Ankouar, Deler, Kawino, cette maison a été détruite. Le ministre a réuni ce jeudi dans la ville de Chikapa les chefs de ces deux villages. Écoutez Deler Kawino, joint au téléphone par Joël Bofengo.
Les gens de Moutenda sont allés ils se disputent effectivement les problèmes de limite. Ils sont allés dans les fermes occupées par les gens de Kazamba où ils ont brûlé quelques cases qui sont dans des fermes. Environ 7 cases ont été brûlées par les gens de Moutenda dans l'environnement dans l'agglomération de Kazamba. Il n'y a pas eu mort d'homme, mais au moins il y a eu des dégâts matériels. J'ai effectivement appelé tout le monde à l'apaisement pour dire que les services spécialisés vont descendre sur le terrain pour essayer d'examiner les problèmes de près et on va nous ramener les données pour que nous puissions trouver des solutions adéquates. Mais en attendant, nous avons appelé à l'apaisement à toutes les parties. Chikapa, de ce côté-là, c'est un territoire. Il y a l'agriculture, mais aussi il y a les minéraux dans les sous-sols.
Journée internationale de lutte contre les recrutements et l'utilisation des enfants dans les groupes armés, journée dite main rouge, est célébrée le 12 février de chaque année. En RTC, plus de 2000 enfants sont séparés en 2020 des groupes armés par les acteurs de protection d'enfants en situation de conflits armés. Les provinces de l'Ituri, du Nord et Sud Kivu sont plus concernées, indique la section protection de l'enfant de la MONUSCO. Le chef de cette section s'est réjoui que les FARDC n'aient plus des enfants dans leur rang depuis la vérification de l'ONU en 2017. Il estime toutefois que le défi reste encore au sein des groupes armés où on continue à enregistrer des cas de recrutement et utilisation d'enfants. Il en appelle à la cessation de cette pratique. Mathieu Ndongokoni est au micro de Denise Lukesso.
Grâce aux efforts fournis par tout le monde, les violations sont généralement à la baisse. Nous l'avons dit, zéro enfant retraité par les FACDC depuis pratiquement 3 ans. Nous avons des petits soucis avec les FACDC, les forces de sécurité de manière générale, sur les cas de violence sexuelle. Les groupes armés restent les plus grands violateurs des droits des enfants aujourd'hui et c'est une situation qui reste la même sur des années. Donc l'effort que nous faisons aussi, nous pouvons dire qu'en communiquant avec les groupes armés aujourd'hui, cela nous a permis de séparer beaucoup plus d'enfants que ce n'était possible il y a 2 ans. Donc nous sommes optimistes que en travaillant de concert avec tous les partenaires, nous pourrons diminuer davantage les violations qui sont commises par ces groupes armés-là sur les enfants. Il faut que tous les groupes armés qui restent encore actifs en République démocratique du Congo libèrent les enfants qui se trouvent dans leur rang.
Au Sud Kivu, voisin, lancement hier jeudi à Bukavu de la campagne de lutte contre les violences sexuelles en milieu scolaire. C'était l'essentiel de la rencontre tenue entre une équipe spécialisée des policiers de la MONUSCO et les acteurs éducatifs du Sud Kivu. Des recommandations ont été mises par les participants répartis en 6 groupes. Les détails, Michel Chirimouami.
Pour le directeur provincial de l'EPST Sud Kivu 1, une attention particulière sera mise sur ce processus de lutte contre les crimes de violence sexuelle basés sur le genre jusqu'à son éradication. Le proverbe de Yoy Bokete Jean-Pierre.
Nous voulons d'abord identifier les cas de violence sexuelle, bien les cas de viol qu'on retrouve dans nos écoles respectives. Les cadres de l'enseignement primaire, secondaire et technique sensibilisés, les enseignants, les parents, les élèves, nous allons mettre en place une équipe de suivi. Ça va nous permettre vraiment d'éradiquer ces fléaux. Nous allons décourager même ceux qui ne veulent pas que les choses aillent mieux.
Une des policières MONUSCO engagée dans cette lutte contre les violences sexuelles a énuméré les étapes du projet à suivre dans cette immense tâche qui les attend en cette période où les écoles n'ont pas leurs portes ouvertes. Madame Judith Bertrand.
Dans la région que nous ciblons, il y a 700 écoles. Nous espérons de faire au moins 15 séances de sensibilisation par mois. Dès que nous aurons la liste des écoles et des personnes clés contact pour chaque école, nous allons nous mettre en lien avec les écoles. Ils vont regrouper des élèves par groupe de 10 pour qu'ils entendent le message sur la violence sexuelle basée sur le genre.
Bukavu, Michel Chirimouami, Radio Okapi.
Dans la province du Congo central, l'évêque du diocèse de Matadi, Monseigneur Daniel Landou, a procédé ce jeudi 11 février à l'inauguration couplée des bénédictions solennelles du bâtiment abritant le complexe scolaire Espérance. Espérance, une structure éducationnelle d'encadrement des personnes vivant avec handicap auditif. Cette première école moderne d'enseignement spécial dans le Congo central est construite par les diocèses de Matadi à travers la Caritas Développement. Elle a été financée à la hauteur de 204 000 dollars américains par la Caritas Autriche-Linz. Nana plus richement pour les reportages.
Dès la reprise de cours, ces enfants malentendants au total 168 étudieront dans de bonnes conditions dans ce nouveau bâtiment de deux niveaux, comprenant chacun 7 salles de classe spacieuses et un bureau administratif. Avant la réalisation de cet ouvrage, les conditions dans lesquelles étudiaient ces sourds muets étaient très déplorables. Ces enfants handicapés auditifs ont sollicité auprès des autorités un accompagnement. Sa fille a interprété leur porte-parole.
L'endroit qui nous était réservé pour notre formation était une cave. Sans aération, sans lumière, sans cours de récréation. Parce que nous sommes sourds, nous vivons toujours la stigmatisation, les rejets. Nous demandons votre soutien pour pérenniser cette œuvre commencée par l'Église catholique, aider l'école dans ses démarches de mécanisation pour que nos enseignants soient payés.
Dans son mot, l'abbé Jean-Jacques Diafouka, coordinateur de la Caritas Développement Matadi, a indiqué qu'en baptisant cette école du nom de l'espérance, l'évêque du diocèse de Matadi, Monseigneur Daniel Landoumaï, voudrait d'abord redonner aux enfants sourds-muets de la ville de Matadi toute leur dignité de personnes humaines et ensuite les voir briser au travers d'une bonne formation les barrières érigées par leur handicap. De Matadi, Nana plus riche Mambou, Radio Okapi.
Attendu hier jeudi, Agba Dolité, le gouverneur déchu du Nord Ubangi, a été interdit de quitter Kinshasa. Isato Nzenge séjourne encore dans la capitale congolaise depuis la tenue de la dernière conférence des gouverneurs à laquelle il a pris part. Ses partisans dénoncent cette décision des autorités nationales, disent-ils, sur base d'un rapport erroné de la DGM Nord Ubangi. Paul Richard Malengela.
Selon Villa Ernest Bangato, porte-parole du gouverneur déchu, celui-ci devait retourner ce jeudi à Agba Dolité. C'était conformément à la circulaire du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sortant, a-t-il expliqué, lui autorisant de retourner à son poste en attendant les conclusions de la justice. Cependant, poursuit notre source, Isato Nzenge Koloké aurait été interdit de s'embarquer à l'aéroport d'Njili à Kinshasa à cause d'un rapport de la DGM Nord Ubangi, rapport selon lequel la forte délégation venue de Yakomba pour accueillir leur frère Isato Agba Dolité serait munie d'armes à feu et de munitions en vue de prendre parti pour lui et de provoquer une guerre dans la ville. C'est que demande Phil à Ernest Bangato, il parle plutôt de manipulation politicienne.
La DGM Nord Ubangi a fait un rapport erroné au niveau de Kinshasa disant que l'unité de Yakoma était munie des armes et des munitions alors que c'est faux. Ce sont des mensonges grossiers qu'on a montés. Il n'y a pas des armes, moins encore des munitions entre les mains de Yakoma parce qu'on les avait fouillés systématiquement aux différentes barrières érigées spécialement pour les contrôler. C'est une manipulation politicienne parce qu'il n'y a pas de preuves.
Joint ce matin à Agba Dolité, un cadre de la DGM Nord Ubangi s'est réservé de tout commentaire à ce sujet. Son service, a-t-il conclu, reste apolitique. Mbandaka, Paul Richard Malengela, Radio Okapi.
Et en bref, au Kassai Oriental, un nouveau cas de COVID-19 a été enregistré. L'annonce a été faite ce jeudi par les conseillers du ministre provincial de la Santé, qui est en même temps membre du comité provincial des ripostes de cette épidémie. Il affirme que le résultat de l'INRB Kinshasa sur ce dernier cas a été transmis hier au comité provincial. La province totalise actuellement 8 cas de COVID-19, dont 5 personnes guéries, une personne en cours de traitement et 2 décès, rapporte la même source. La République de l'Inde dotera la République démocratique du Congo d'une grande quantité de vaccins contre la COVID-19. L'annonce a été faite ce jeudi à la presse par l'ambassadeur de l'Inde en RDC, Ram Karane, après l'audience lui accordée par le chef de la maison civile du chef de l'État, Dr Bruno Mitéo Nyenge. La République de l'Inde s'engage également à multiplier les salles de classe dans certaines écoles de la RDC pour respecter la distanciation sociale afin de permettre la jeunesse congolaise à bien étudier. L'ambassadeur Ram Karane est au micro de Richard Junior Kamunga.
Nous avons parlé de la COVID-19, nous avons parlé de problèmes de l'éducation des enfants qui vont à l'école et qui sont impactés par cette pandémie. Nous avons aussi parlé de la possibilité de construire des salles de classe supplémentaires dans des écoles pour pouvoir répondre à ces problèmes de distanciation sociale. Et aussi, il y a eu le problème de l'eau, parce que l'eau potable était un problème et nous savons que les jeunes filles dans nos milieux ruraux vont chercher de l'eau très loin pour pouvoir subvenir à leurs besoins en eau potable. Et avec cela, nous avons pensé à comment réaliser, à pouvoir apporter de l'eau dans nos ménages.
Some thousands of free doses of COVID-19 vaccine to our Congolese friends.
Pendant la période de pic de la pandémie à coronavirus, l'Inde a fourni 6 tonnes de médicaments, des hydrochloroquines et tout ce qu'il y a dans le lot. Et aussi, l'Inde est en train de penser à donner des milliers de doses de vaccins qu'il a développés à ce pays ami.
Actualité internationale.
Au Sénégal, un pas de plus a été franchi ce jeudi vers la levée de l'immunité parlementaire du député opposant politique Ousmane Sonko, accusé de viol avec menace par une employée d'un salon de beauté. Des accusations qu'il refute et qu'il qualifie de machinations politiques pour l'éloigner de la course présidentielle de 2024. Washington a condamné formellement l'interdiction de la BBC en Chine. Londres, pour sa part, dénonce une atteinte inacceptable à la liberté de la presse. Notons que Pékin a annoncé jeudi 11 février l'interruption de la diffusion des BBC World News en Chine en raison des contenus infrayants, selon elle, les directives en vigueur dans le pays. BBC World News a diffusé un reportage contenant des récits de violences sexuelles contre des Ouïghours dans des camps d'internement chinois.
L'invité.
Les commerçants d'Mbujimaï se plaignent notamment de voir que leurs marchandises déposées il y a quelques temps à la SNCC ne sont toujours pas arrivées en monnaie du tout. La SNCC, pour sa part, dit que son plan d'évacuation de toutes les marchandises est bien exécuté pour que les premiers arrivants soient les premiers servis. Et pour en parler, Jean Gandou s'est entretenu avec Marc Manyanga, directeur d'exploitation de la SNCC.
Marc Manyanga, bonjour.
Bonjour.
Les commerçants de Mbujimaï se plaignent. Il y a longtemps qu'ils ont déposé leurs marchandises à la SNTC et depuis, les marchandises n'arrivent toujours pas à destination, donc à Monéditou. Qu'est-ce qui bloque?
S'agissant particulièrement des clients de Monéditou, la direction générale donc, a dépêché les directeurs de marketing au niveau de Mbujimaï pour prendre sur terrain les doléances de la clientèle afin de concilier les programmes qui sont mis sur pied avec certaines préoccupations qu'ils ont exprimées. Parce qu'il ne faut pas seulement parler de plaintes, mais il y a aussi des préoccupations que les clients peuvent exprimer pour davantage améliorer l'offre qui les représentait. À l'heure actuelle, nous avons un grand plan d'évacuation au niveau de la partie sud et de la partie nord. Au niveau de la partie sud, c'est pour les charges qui viennent au-delà de Sakania. Et de la partie nord, ce sont des charges qui viennent d'Ilebo au port. Si nous voulons revenir sur la partie sud, la première évaluation nous donne pratiquement 125 wagons qu'il faut évacuer et nous sommes certains avec les moyens disponibles que nous allons les évacuer dans 7 jours. Notre directeur qui est en charge du mouvement du matériel, il nous a dit qu'autour des samedis, dimanche, ça pourra être là. La SNCC ne transporte que ce qui lui est remis. Et les SNCC pensent qu'en améliorant ses prestations, il va aider les clients à rentrer au rail et à croître davantage leurs demandes par rapport à l'offre que la SNCC est en train de donner. Après la mission que la direction générale de la SNCC a dépêchée sur Mbujimaï, nous observons sur la base des chiffres que des efforts doivent être faits aussi de part et d'autre. Nous avons regardé le portefeuille des clients actuellement qui opèrent avec la SNCC. Nous pensons que aux efforts que nous faisons, si nous pouvions davantage rencontrer une certaine amélioration au niveau de la demande, cela ne pourra rendre que forts les uns et les autres.
Qu'en est-il des locomotives qui sont considérées comme étant en panne, qui expliqueraient le retard dans l'acheminement des marchandises?
Les locomotives sont jugées en fonction de leur délai de fiabilité par rapport à leur fonctionnement. Il viendra un temps pour cette appréciation.
Vous en avez combien maintenant, les locomotives à la SNTC?
On oscille avec une moyenne de 21 et 22. Avec les actions que la direction générale est en train de mener, avec les moyens disponibles, il y a des moments où nous atteignons 27, 28 ans. Mais donc on évolue entre 22-23, avec un pic comme ce matin, on est à 28.
Et l'état des rails, est-ce que ça vous permet d'atteindre vos différents objectifs?
Quand on a fait le diagnostic pour le rail sur 3641 km de voie, vous avez à peu près 1400-1500 km qui sont en mauvais état. Mais il faut être proche des agents. Il faut que les agents vous croient, comme ils sont en train de croire à l'actuelle direction générale. Et c'est autour de cet espoir. Vous savez, l'homme peut mieux faire. C'est pour ça que beaucoup d'experts ont toujours estimé que l'outil le plus important, c'est quand même l'outil humain. Et c'est ce que la nouvelle direction générale est en train pratiquement de démontrer avec cet outil hein, qui n'a pas changé des rails. Ce n'est pas en 6 mois qu'ils ont fait qu'on va renouveler toute la voie. Elle vous coûte déjà trop cher parce que 1 km de voie renouvelée, vous avez autour de 800 000 à 1 million de dollars. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce leadership-là qui est en train pratiquement de mener les agents vers les résultats que nous sommes en train de constater.
Vous demandez à ceux qui ont des marchandises de les amener à la SNCC, mais comment écourter le délai de livraison des marchandises qui sont déposées à la SNCC vers le point de destination?
Si c'est pour livrer les marchandises à destination, les règlements règlement prévoit que quand la marchandise arrive à destination, on envoie un avis d'arrivée, on donne 24 heures. Si vous ne vous présentez pas dans 24 heures, vous pouvez payer le chômage. Mais nous, nous avons contourné maintenant la difficulté. On préfère, et ça les clients vont le voir à partir de cette semaine déjà. Donc on est rentré au principe où il faut lancer les avis d'arrivée de marchandises par voie d'affichage dans des gares. Par exemple, les 125 wagons dont je vous parle qui sont en train d'aller vers Mwenedito, au plus tard dans ces 48 heures, on va les voir affichés en Bujima et en Mwenedito pour que les gens puissent suivre. De sorte qu'ils savent déjà que demain mon wagon va d'arriver, ils commencent déjà les formalités avec les services.
Pourquoi on n'est pas passé de 4 jours à 2 jours de Lubumbashi à Mwenedito pour que celui qui a mis sa marchandise dans les entrepôts de la SNCC, en dehors de 2 jours, il puisse la récupérer?
Le chemin de fer, il est lié à des indicateurs. Il y a des parcours, des kilométrages et tout ça. Lorsque nous faisons le plan de transport en fin d'année, on sait que de telle distance à telle distance, on doit faire autant de temps. C'est le temps que nous essayons de respecter. Les trains phares, le diamant d'Elix, que vous connaissiez avant, mais ces trains mettaient Lubumbashi Mwenedito 5 jours. Mais depuis que la nouvelle équipe est arrivée, ces trains et la confirmation se fait avec les New Dama Béton, il fait 2 jours.
Et donc même les marchandises peuvent aller à 2 jours.
Mais le problème c'est quoi? C'est qu'il y a des phénomènes perturbateurs qui sont dans le chemin de fer, et ça ce n'est pas inhérent seulement au chemin de fer congolais, on le trouve partout. Vous pouvez avoir des détresses de machines, vous pouvez avoir des déraillements qui peuvent avoir plusieurs causes. Donc ce sont des faits perturbateurs qui peuvent retarder la marche des trains. Mais lorsqu'il y a la discipline comme elle a été impulsée là, c'est là que vous sentez que le temps devient plus ou moins acceptable. C'est un effort constant qu'il faut maintenir. Et je crois que ce langage là, les cheminots l'ont bien compris.
Marc, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Merci à toute l'équipe qui a conclu à la production de ce journal. Polydor Basunga était à la mise en onde, de Richard Junior Kamunga était à la coordination sous la supervision de Julien Nyamweni. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h de Kinshasa pour un bulletin d'information.